Ouais, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais faire un petit point sur la manifestation qui s'est tenue à Rennes samedi dernier. Donc pour rappel, il y avait un appel à la manif carnaval festive et pacifiste à Rennes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc ça s'est terminé avec trois manifestants qui ont été condamnés à des peines de 2 à 7 mois de prison ferme ce lundi, directement à Rennes toujours. Alors tous avaient participé à la manifestation qui aurait dégénéré samedi dans la capitale bretonne, occasionnant de soi-disant très nombreux dégâts dans la ville. Alors on accuse bien sûr dans les médias bourgeois encore une fois les méchants anarchistes, alors que bon, personne n'a revendiqué quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Hein. Donc ce qui s'est passé, en arrivant place de la République à Rennes, la tension monte d'un cran. Une poignée de militants anarchistes tague sur les murs de la ville le célèbre initial ACAB. Je vois pas ce que ça veut dire.
Non plus.
En arrivant au niveau des barrages de CRS qui coupent accès au centre historique, les premiers projectiles, donc farine, œufs, pétards et bouteilles, partent en direction des forces de l'ordre. Tout le monde s'indigne pour ensuite, a priori, plusieurs vitrines de banques, agences de voyage et mutuelles qui auraient été dégradées. Et donc ça termine avec trois interpellations et bien sûr comparution immédiate. Les trois hommes n'étaient pas jugés pour les dégradations commises dans la ville, mais pour des violences à l'encontre des forces de l'ordre. Donc on rappelle que les violences qu'on parle, ce serait de la farine, des œufs, des pétards et des bouteilles.
Les pauvres policiers.
C'est dur. Surtout qu'ils sont pas bien équipés.
Tout ça.
On comprend que ça doit être difficile. Donc reconnus coupables par le tribunal correctionnel, ils ont été placés sous mandat de dépôt et ils ont donc rejoint dès lundi soir la prison de Vezin-le-Coquet à côté de Rennes. À l'audience qui a été suivie a priori par une cinquantaine de personnes dans le public pour les soutenir, on a attendu deux versions des faits radicalement différentes. Donc d'un côté celle des policiers qui décrivent des manifestants qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, et de l'autre celle des manifestants qui expliquent avoir participé pacifiquement au rassemblement parce qu'a priori ça serait pas du tout des gens qui étaient même mêlés en fait au conflit qu'il y a eu avec les flics. Donc l'avocate d'un des deux manifestants a demandé au tribunal de ne surtout pas prononcer de peine pour l'exemple à l'encontre de ces trois jeunes qui n'ont rien à voir selon elle avec les casseurs puisqu'ils seraient accusés, comme à l'accoutumée, sans preuve réelle de leur implication dans les faits pour lesquels qu'on leur reproche. Mais pour le procureur, il y a un contexte avec des manifestations qui trop souvent dégénèrent. Et il y a aussi des faits de violence reprochés à trois hommes qui méritent donc d'être punis. Alors voilà, donc ça s'est terminé avec deux qui ont pris 2 mois ferme direct et un troisième 7 mois. C'est quand même des peines très très lourdes là qu'ont été prononcées. Donc pour continuer là-dessus, un petit point sur l'état d'urgence du coup, qui vient donc d'être inscrit lundi dans la Constitution. Donc lors du vote lundi 8 février portant sur l'article 1 de la révision constitutionnelle qui prévoyait l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, de très nombreux députés avaient déserté les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, bon, je sais pas trop où ils étaient. Ils devaient certainement avoir une bonne raison. Hein.
Je pense qu'ils avaient un repas, un truc comme ça.
Quelque chose comme ça. Donc, précisément, sur les 577 parlementaires, je suppose que tout le monde en a entendu parler, mais c'est quand même important de le rappeler, 441 élus étaient portés absents et absentes, soit 76% de l'ensemble des députés. Donc, le vote a terminé à 103 voix contre 26, ce qui est un peu ridicule. Et bien sûr, Manu était présent en grand prince pour voir son projet, projet adopté. Donc ça, c'était un premier volet qui prévoyait donc en gros que l'état d'urgence puisse être décrété sur simple décision du Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique. Donc ça peut être des événements naturels ou un peu n'importe quoi en fait.
Pas trop ce que ça veut dire.
C'est pas vraiment. Donc comme actuellement, seul le Parlement pourra proroger l'état d'urgence au-delà des 12 jours initiaux. On est à combien là déjà ?
Bientôt 3 mois.
Ouais, c'est ça.
26 février.
Et donc ils pourront fixer une loi qui allongera la durée de manière indécise.
Permanente, de toute façon. Après, on avait vu M. Valls sur je ne sais plus quel média étranger jouer un peu le cow-boy en disant que l'état d'urgence serait permanent jusqu'à ce que Daesh disparaisse.
Alors là, on apprend qu'il y aura une période maximale de 4 mois, mais qui sera renouvelable après vote du Parlement.
Voilà, ouais,
donc en fait, effectivement, c'est renouvelable en permanence.
Je crois qu'il y aura une petite alerte, bing, on remet 4 mois.
C'est ça. Mais pour continuer dans la bonne humeur avec ça, le lendemain, donc les députés ont revoté. Cette fois-ci, donc c'était pour inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité. Et donc cette fois, c'était un peu mieux. Donc ça a été adopté à 162 voix contre 148. Donc j'ai fait le calcul rapidement. Si on compte 577 députés pour 310 voix, il en manquait encore 267, ce qui nous fait encore un bon nombre.
Sûrement encore une bonne excuse.
Hein. Faut avoir compris qu'il se défendait en disant qu'il serait là en masse pour voter la loi finale.
Non, mais
toujours est-il que bon.
Non, mais comme ils sont bénévoles. Ah non, pardon, ils touchent.
Non,
je me suis dit, ouais, si c'était bénévole, ça pouvait s'entendre. Hein, dire les gens, voilà, ils bossent un peu, tout ça. Comme nous, si un jour on vient pas le mercredi soir, voilà, c'est parce qu'on a autre chose.
Ouais, mais enfin,
très occupé. Mais là, mais pas du tout. Ils touchent plein de thunes,
c'est
eux
qui veulent y aller. Étant donné qu'ils ont quand même beaucoup de mandats accumulés, ça doit être assez compliqué à gérer.
Tout en sachant qu'on sait, j'ai vu un article il y a pas très longtemps aussi sur les. Toutes les retraites qu'on paye aux anciens présidents et compagnie, ça chiffre à dizaines de milliers d'euros, voilà, tous les mois.
Dizaines de millions.
Oui, mais enfin, par mois, et puis après, ça se multiplie, parce que tant qu'il reste en vie, c'est coco, bah, il touche.
Toujours. Voilà. Je continue toujours?
Ouais, vas-y.
Bon, alors, du coup, avec un article, qui reparle un peu de la dernière manifestation qui a eu lieu à Calais. Alors c'était le 23 ou le 26 janvier.
C'était fin janvier. De toute façon, c'est voilà, en soutien aux migrants et aux migrantes.
Ouais. Alors du coup là, c'est en rapport à l'interpellation de militantes italiennes. Après 3 jours en centre de rétention sous le coup de mesures d'expulsion pour avoir participé à une manifestation en soutien aux migrants et migrantes à Calais, 3 étudiantes italiennes ont finalement été relâchées. Sur fond d'état d'urgence, l'exécutif fragilise le pouvoir des juges afin de mettre la pression sur des manifestants et manifestantes étrangères et étrangers, y compris européens et européennes. Ce cas illustre bien la manière dont l'autorité administrative fait fi des décisions judiciaires, voire contourne la justice pour appliquer sa propre répression, explique l'universitaire Vanessa Codaccioni. Oui, parce que c'est un article. Je lis. Jamais on ne se serait attendu à ce qui nous est arrivé à vous, Valentina. La France est devenue complètement malade. Samedi 23 janvier, on a retrouvé la date, Valentina se trouve avec ses 2 compatriotes à Calais pour la manifestation de solidarité avec les migrants et migrantes. Près de 2000 personnes, membres d'associations, d'organisations politiques, citoyens et citoyennes solidaires, riverains et migrants et migrantes se sont rassemblés à la jungle, territoire du bout du monde jouxtant le port. C'est ici que survivent, dans une grande précarité, près de 7000 personnes tentant depuis des mois de passer en Angleterre, ou ailleurs d'ailleurs. Le cortège bigarré s'était lancé de cet endroit désolé, où femmes, hommes et enfants sont arrosés la nuit de gaz lacrymogène par les CRS depuis début janvier. Nous dénonçons les politiques françaises et européennes qui créent ces situations à Calais comme aux portes de l'Europe, souligne l'appel au rassemblement. Nous demandons immédiatement des conditions d'accueil dignes pour toutes et tous, qu'il ou elle soit nommé réfugié, migrant, migrante ou sans papier. Nous exigeons des droits égaux pour toutes et toutes, des titres de séjour, l'accès aux soins et au logement. En fin de manifestation, une centaine de migrants et migrantes se mettent à courir vers le port. Nous les avons suivis en solidarité, raconte Martina. Et puis il y a eu une grande confusion. Face à nous, un horizon de tirs lacrymo. Derrière, des fourgons de police qui se rapprochent. Des gens passaient sous un grillage. On a fait pareil pour sortir de là. Alors qu'elles entrent dans des toilettes toujours situées dans la zone portuaire, la police aux frontières les interpelle avec 4 personnes françaises. Les voilà parties pour 24 heures de garde à vue à l'hôtel de police de Coquel, une ville qui jouxte Calais. La police nous faisait croire que des migrants et migrantes étaient morts et que c'était de notre faute. Les 7 interpellés sont accusés de dégradation volontaire en réunion et d'avoir pénétré illégalement dans le port. Nous ne savions pas où nous allions, disent les militantes. L'ambiance au commissariat est tendue. La police nous faisait croire que des migrants ou migrantes étaient morts et que c'était de notre faute. Les agents aimeraient les classer « no border », un terme péjoratif dans la bouche des forces de l'ordre, qui désigne chez eux des activistes radicaux menaçant la sécurité du territoire. Nous étions là au soutien aux migrants et migrantes, préfère Asséner Ornella. À l'issue des interrogatoires, aucune poursuite pénale n'est finalement retenue contre les 7 imprudents. Les Français sont libérés et les Italiennes se préparent à sortir dans la foulée. 2 autres manifestants et 6 migrants ou migrantes sont accusés d'être montés illégalement sur un ferry à la fin de la manifestation et seront, eux, jugés le 22 février. Encore deux poids, deux mesures. Hein. Ouais. Pour les 3 Italiennes, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Sauf que Bernard Cazeneuve a donné des instructions pour que les no-borders qui ont participé à ces opérations fassent l'objet d'une expulsion. Comme il le déclare à la presse dès le dimanche, 10 minutes avant la fin de la garde à vue, nous apprenons que la préfecture ordonne notre obligation de quitter le territoire français, donc une autre UTF, pour des Européens, quand même, et que nous sommes transférés dans un centre de rétention administrative, donc CRA, relate Martina. Menace réelle, actuelle et grave. Au CRA de l'Esquin, à quelques kilomètres de Lille, les jeunes femmes reçoivent incrédules leur notification d'obligation de quitter le territoire et les faits qui leur sont reprochés par l'exécutif, alors même que le procureur a d'ores et déjà estimé que rien ne permettait de les poursuivre.
Ça, c'était clair, de toute façon, ça c'est très bizarre, mais bon.
C'est quand même...
Ça met un coup de pression pour pas qu'elles reviennent, quand même.
La France peut donc motiver des avis d'expulsion avec des allégations infondées, non vérifiées, n'ayant donné lieu à aucune poursuite pénale. Comment mes clientes peuvent-elles représenter une menace réelle, actuelle et grave, alors qu'elles n'ont jamais été inquiétées par la justice ou la police en France comme en Italie ? Demande leur avocate Muriel Rueff. Ce motif de la menace pour la société française avait déjà été mobilisé durant la COP21 pour mettre en rétention et menacer d'expulsion deux militants écologistes belges après qu'ils aient participé à la manifestation interdite de la place de la République le 29 novembre dernier à Paris. J'avais pu faire annuler par le tribunal l'OQTF en démontrant qu'il ne représentait pas une menace grave, témoigne leur avocat. Comme pour mes clients, la situation des Italiennes semble bien liée à une décision politique. Et clairement. Dans ce qui ressemble à une croisade zélée contre d'improbables perturbatrices étrangères, la préfecture recourt à un second arbitraire. Pour les placer en rétention, elle invoque le fait que les Italiennes n'auraient pas fourni d'éléments justifiant qu'elles résident en France depuis plus de 3 mois. Elles ont indiqué qu'elles étaient étudiantes dès la garde à vue, rétorque leur avocate, qui a déposé un recours devant le tribunal administratif. Nous avons transmis les preuves de résidence en France depuis plus de 2 ans, des preuves d'adresse fixe, d'inscription à l'université, d'emploi pour l'une d'entre elles. Mais donc a priori, ça a quand même pas suffi. Après les communiqués des universités, les lettres de soutien des professeurs, les pressions du consul italien et les articles dans les médias, la France a finalement décidé d'écourter une situation difficilement tenable. Le soir du 3e jour de rétention, le 27 janvier, la préfecture du Pas-de-Calais libère les Italiennes et retire l'OQTF. Elles ont de bons justificatifs, confirme la préfecture du Pas-de-Calais. Il ajoute même qu'elles n'ont commis aucun délit, que deviennent alors les graves accusations inscrites sur la notification d'OQTF auparavant. Elles disparaissent tout simplement. Le retrait, ce n'est pas l'abrogation, précise leur avocate. Cela veut dire que l'acte n'aurait jamais dû exister, que la préfecture acquiesce à son illégalité. Ce qui est quand même pas mal. Sur fond d'état d'urgence, dans un contexte actuel où l'exécutif fragilise le pouvoir des juges, se garde la possibilité de mettre quelques jours en rétention des manifestants ou manifestantes étrangères pour les relâcher ensuite sans passage devant le tribunal, relève d'une méthode qui met une nouvelle fois à mal l'idée d'un état de droit. Ce cas illustre bien la manière dont l'autorité administrative fait fi des décisions judiciaires, voire contourne la justice pour appliquer sa propre répression. Analyse Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris 8. C'est un classique des moments d'exception, appelle-t-elle. Pendant la guerre d'Algérie, de très nombreux individus ont été relâchés par la justice, mais immédiatement transférés dans des camps d'internement par la volonté des seuls préfets. Je crois qu'on arrive au bout.
Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait vu. Enfin, après, là, ils ne sont pas allés jusque-là, mais c'est que du coup, à Vintimille, on avait vu que. Au mois de septembre, il y avait même des interdictions de séjour pour des militants militantes étrangères à la ville, notamment beaucoup de militantes français et françaises qui, du coup, ne pouvaient plus retourner à Vintimille.
Voilà, c'est ça. Même des militants italiens.
Italiens, voilà, qui ne pouvaient pas revenir dans la ville.
Je crois que c'était sur une durée de 3 ans, voilà, quelque chose comme ça.
On se rappelle à l'époque des violences policières lors d'un contre-sommet, là, Diaz, il y a même un film voilà, qui est là-dessus, où du coup les militants étrangers qui avaient été chopés dans ce truc-là après avoir été massacrés par la police avaient été mis pendant un temps en prison, voilà, avant d'être tranquillement expulsés d'Italie sans jugement, parce que du coup il n'y avait rien, pas grand-chose à leur reprocher. Quoi. Donc voilà, encore un moyen de criminaliser un petit peu la solidarité. On va continuer un petit peu, du coup, avec un peu de violence policière, vous en prendrez bien un petit peu. Voilà, on va faire un petit tour aux États-Unis. Où, quand même, c'est assez gonflé, un policier de Chicago, voilà, qui réclame de l'argent à la famille de la victime, c'est assez gros ça quand même. Hein. Aux États-Unis, vous savez, on a déjà pas mal parlé, les familles des victimes de bavures policières ont parfois du mal à obtenir justice, hein, mais voilà. Mais une affaire à Chicago a poussé l'absurde à l'extrême. Un agent de la police de Chicago, donc, qui avait tué en décembre 2015 un jeune homme de 19 ans, se retourne contre ses parents à qui il réclame 10 millions de dollars de dommages pour avoir été traumatisé par le drame, ça c'est quand même assez gros quoi. On va reparler de l'affaire, il me semble parler déjà, donc l'affaire remonte au lendemain de Noël. La police locale reçoit un appel pour troubles de voisinage. Lorsqu'une patrouille arrive au domicile de Quintino Le Grier, le jeune homme, à la suite d'une dispute avec son père, menace ce dernier avec une batte de baseball. Lors de l'intervention, l'agent de police Robert Rialmo sort son arme et le tue, mais ainsi que la voisine du dessous, Betty Jones, âgée de 55 ans, mère de 5 enfants, à qui le père de Quintino Le Grier avait demandé de ne pas ouvrir aux forces de l'ordre. Immédiatement après, la police fait l'objet de vives protestations sur les méthodes employées. Les témoins assurent qu'il n'y avait aucune raison de tirer, la mère du jeune homme allant jusqu'à affirmer que jamais la police n'aurait dû être appelée dans le cadre d'une simple dispute familiale. Les deux victimes étaient, devinez quoi, noires, et le policier, devinez quoi, était blanc. Donc la plainte déposée par Monsieur Rialmo affirme que juste après son arrivée sur les lieux, donc Quintino a tenté de le frapper à la tête, affirmant qu'il avait senti un souffle d'air lorsque la batte est passée devant son visage. Il aurait d'ailleurs battu en retraite en bas de l'escalier avant d'intimer l'ordre à l'agresseur de poser l'objet. Donc voilà, c'est alors que le policier tire 8 coups de feu. Ils vont pas au plus avec de la cuillère à chaque fois. 8 coups de feu. Donc atteignant mortellement le jeune homme et donc la voisine qu'il dit-il n'avait pas vu. Donc pour le moment, aucune version officielle du drame n'a été donnée par la justice, l'enquête étant toujours en cours. Alors que le père du jeune a porté plainte contre le policier, considérant que son fils ne représentait pas une réelle menace. Donc le policier a poursuivi vendredi 5 février, donc il n'y a pas très longtemps, à soutenir donc cette famille. Et là je cite son avocat, c'est assez hallucinant. Le fait que les actes de Le Grir ont obligé l'agent Rialmo à l'abattre et de tuer accidentellement Betty Jones a causé et continue de causer un traumatisme émotionnel extrême. C'est un truc de fou quand même.
T'es obligé, c'est quand même.
Donc voilà, bon, on espère que évidemment la famille sera pas obligée de condamner. Enfin voilà.
T'as un problème ?
Je vais payer. Ouais, excusez-moi. J'ai besoin d'un autre texte. Voilà. Puis on va rester aux États-Unis parce que voilà une petite vidéo qui avait été trouvée. Avec une jeune autiste qui avait publié à un moment donné une vidéo, voilà, où elle se filmait en train de, lors d'une crise, et voilà, c'était son chien qui l'avait calmé. C'était, ça permettait de faire une nouvelle méthode pour calmer un petit peu les crises autistiques. Voilà, donc elle s'appelait Kaiden Clerc. Donc voilà, mais le problème, c'est que voilà, un an plus tard, eh ben, elle a été assassinée par la police alors qu'elle traversait une nouvelle crise. Les policiers, toujours la même chose, hein, on s'est senti menacés, ils ont tiré et tué donc une autiste de 24 ans, un individu atteint d'une maladie mentale auquel ils étaient habitués à avoir affaire et étaient au courant de ses besoins spéciaux, réplique sa mère. Donc en effet, ce dimanche-là, la police d'Arizona est appelée pour un cas de risque de suicide. Quand elle arrive à l'appartement, Kaiden Clerc, jeune autiste trans, les agents lui tirent dessus car en trans, pardon, jeune autiste, ouais, ou en trans, ouais. Les agents lui tirent dessus car selon le témoignage, il s'avançait vers eux avec un couteau, mais selon la mère de Kaiden, avant que la police n'arrive, il ne posait aucune menace et la police est rentrée dans son propre logement. Donc il y a une enquête qui est toujours en cours. Il y a effectivement aucune excuse pour un tel crime. L'assassinat de Kaiden par la police est profondément révoltant car il résulte d'une combinaison entre la liberté tue entre guillemets, hein, dont la police nord-américaine fait régulièrement usage, notamment contre les noirs et les pauvres, et la criminalisation des malades mentaux en les faisant passer pour des personnes dangereuses pour la société. Donc voilà, encore un meurtre de la police américaine. Mais on va passer en France parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, vu que les policiers aiment bien prendre modèle. Puis qu'il y a cette nouvelle loi aussi sur la pseudo-légitime défense là, qui va changer, donc les policiers vont pouvoir tirer à tour de bras aussi. Et ben, ça date du 24 janvier 2016, sur le quartier Orvaltais nommé Plaisance, une maman de 4 enfants arrive à son domicile et constate beaucoup de policiers dans sa rue. Voilà, son fils aîné lui explique que son petit frère de 15 ans a été vu avec des amis sur un scooter qui semblait être volé. Elle décide de rester en bas de son immeuble afin de vérifier ce qu'elle vient d'entendre. Il est environ 17h30 quand les jeunes du quartier, qui sont aussi restés pour assister aux éventuelles suites, préviennent que le fils de 15 ans de cette maman-là, que sa maman est là. La maman court vers son fils quand elle voit une antenne de mètres menottée, le nez en sang. Elle n'a pas le temps d'arriver à son niveau qu'elle se fait sauvagement jeter au sol par un policier. Un autre ou le même la plaque sur le ventre et lui afflige une rafale de coups de matraque télescopique. Le fils aîné assiste au lynchage de sa maman et tente d'intervenir mais subit le même traitement. La maman subira 45 heures de garde à vue, accusé de rébellion et fera l'objet de 3 plaintes policières pour agression. Un de ses 3 agents prétend même avoir été étranglé. Donc cette maman fait l'objet de 12 jours d'ITT, a dû porter une attelle tant sa jambe était douloureuse. Elle a, il y a quelques jours, porté plainte auprès du procureur de la République au tribunal de grande instance de Nantes. Ce qui est arrivé à cette maman aurait pu arriver à n'importe quel autre, plus jamais cela. Donc aidez-nous à ce que les violences policières s'arrêtent et à ce que les victimes soient enfin reconnues comme telles. Il y a plusieurs collectifs qui existent, hein, Urgence, Notre Police Assassine notamment. Il y a des appels à dons et tout ça pour soutenir ce collectif-là, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis un petit peu d'histoire, puisqu'on parle de violences policières. On vous transporte le 8 février 62, en pleine vague d'attentats commis sur le territoire métropolitain par l'OAS, donc qui était l'organisation de l'armée secrète créée en 61, dont l'objectif était de maintenir l'Algérie française à tout prix. Plusieurs syndicats et organisations politiques de gauche appellent à manifester pour la paix en Algérie. Le rassemblement pacifique a lieu place de la Bastille et le cortège, composé essentiellement de jeunes et en particulier de jeunes femmes, se dirige ensuite en direction de la place Voltaire, aux abords de la station Charonne de le 11e arrondissement. Et alors que les organisateurs s'apprêtent à déclarer la dispersion de la manifestation, les brigades spéciales de la police sous les ordres du fameux préfet Maurice Papon chargent à coups de matraque les manifestants qui cherchent alors à se réfugier dans le métro. En contrebas des marches se déroulent des scènes de violence extrêmes. Des témoins rapportent que des policiers vont se saisir et jeter des personnes dans l'escalier par-dessus la rampe de la bouche de métro, ou encore lancer des grilles en fonte sur les manifestants tentant de fuir. Bilan, 9 victimes mortes étouffées ou le crâne fracturé et 250 blessés. On va citer les victimes des violences policières donc de ce 8 février 62 au métro Charonne. Donc Jean-Pierre Bernard, Fanny De Verpe, Daniel Ferry, Anne Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorel, Hippolyte Pina, Maurice Pochard et Raymond Vintengs. Donc voilà pour un peu de mémoire sur les violences policières qui ne datent pas d'hier. Et voilà, on va parler aussi un peu de violences policières sur les rassemblements qui a lieu. Ouais, on va pas un petit peu tout à l'heure, on va le faire maintenant. Non, on va le faire maintenant, ce sera fait. Par rapport, bah, vous avez tous appris qu'il y a eu des massacres encore et encore en Turquie par l'armée turque sur les Kurdes, avec une propagande totalement mensongère. Bah, ils font toujours croire qu'ils ont tué des terroristes. En fait, bah, là, ils ont tué des civils. Il y a plein d'images qui le prouvent. Ils ont brûlé, voilà, 60 personnes. Ils ont brûlé un immeuble. Et donc, il y avait donc plusieurs rassemblements en France, notamment.
C'est ça. Bah, du coup, je commençais. En tout cas, la manifestation qui s'est tenue donc le 10 février à Nantes en soutien au peuple kurde a été qui essayait d'atteindre le consulat turc pour protester. Consulat qui se trouve à Nantes près du palais de justice, donc du palais de justice, une zone très sécurisée en général. Donc ils ont été reçus très simplement en étant gazés et aussi par des grenades. Donc des blessés sont à signaler et les témoins évoquent des coups de matraque portés au visage, des grenades de désencerclement lancées de façon à exploser à hauteur de la tête et des gaz lacrymogènes sur un cortège familial.
Bravo. Bon voilà, puis il n'y a pas eu de ça. Bah, à Strasbourg, ils ont réussi à occuper les locaux de France 3. Bah, à Lyon, il y a eu un rassemblement devant l'hôtel de ville. Il y a eu une occupation en Bretagne. Ouais. Il y a eu une occupation à Bordeaux, je crois. La mairie à Rennes aussi. Et ben, il y a Istanbul et à Izmir. Donc, bah, du coup, la police a aussi attaqué les manifestations pour protester contre le massacre de Cizre. Istanbul, voilà, les organisations qui se rassemblent à Galatasaray ont été attaquées par la police. Voilà, 17 personnes ont été arrêtées. De nombreuses personnes ont été blessées par les tirs de balles en caoutchouc de la police. À Izmir, il y a eu 49 personnes arrêtées. Donc, voilà, on espère qu'aussi qu'à Lyon, ça va continuer à se bouger, voire un peu plus, voilà, en soutien, bah, aux Kurdes là-bas qui se font massacrer en Turquie. Donc voilà, on se fait une deuxième petite pause musicale.
Allez,
et on se fera une deuxième petite page de lutte sociale juste après.
En effet. Vas-y, bah, si tu
du
veux.
Du coup, c'est moi. Ok. j'étais pas prêt, mais c'est pas grave. On va lancer ça. Donc, hélas, no Congreso de los Pueblos. Oui, c'est normalement, si je me trompe pas, un groupe. Je me suis trompé.
De punk
colombien. Pourquoi ça veut pas marcher?
Ça va venir. Plus c'est long, plus c'est bon, on dit.
Ça marche pas ?
Ça y est, c'est parti. Tu peux y aller. C'est reparti, vous êtes toujours sur Radio Canu avec Iné Noir, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Alors avant de lancer la deuxième partie des luttes sociales, juste pour dire, c'était en fait Policarpa et sus viciosas. La chanson s'appelle Noal Servicio Militar, je m'étais trompé.
Parce qu'avant il avait dit n'importe quoi le monsieur.
Et voilà.
Bien, deuxième page donc des luttes sociales pour ce soir. On va passer dans l'Ariège à Lavolanais. Donc dans l'Ariège, avec une grève démarrée le 2 février, une grève des enseignants et enseignantes, accompagnée par les parents d'élèves. C'est au collège Pasteur. Les élèves y étaient quand même accueillis, mais sans que les cours soient donnés. Alors la colère ici, ben, c'est une diminution drastique des heures de cours attribuées dans les réseaux éducation prioritaire, les REP. Une entrevue avec le vice-président de la région délégué à l'éducation a peut-être arrangé la situation, mais je dis bien peut-être. À Toulouse, on y revient avec un mécontentement. Très mécontent et très mécontente sont les travailleurs et travailleuses de la veille sociale, c'est-à-dire le 115, donc grévait le 4 février, tout comme le 21 et le 28 janvier dernier, pour exiger tout de suite et pas demain des places d'hébergement, des moyens d'urgence pour accueillir les 250 personnes à Toulouse qui, faute de place, dorment à la rue. À Rennes, c'est une grève à l'enseigne de épicière de Carrefour pour une cinquantaine de salariés du magasin Alma qui dénonce la baisse de l'effectif et aussi dans les avantages sociaux, dans la convention collective, les dégradations des conditions de travail, des arrêts de maladie non remplacés, enfin bref, voilà, toujours les mêmes revendications récurrentes. L'intersyndicale signale que l'effectif à 350 personnes, à 350 salariés il y a 10 ans, est passé à 260. Ici, c'était la CGT et la CFDT qui font partie donc de cette des syndicats donc de Carrefour, Alma, à Rennes. Violence contre syndicalistes, vous en voulez, eh bien vous allez en avoir. C'est cette fois chez Star People. C'est une agence d'intérim, donc violence envers un syndiqué délégué syndical de la CGT. Alors la cause, c'est que celui-ci a fait son boulot d'information, tout simplement, informer des travailleurs intérimaires engagés par La Poste pour casser une grève sur le site de Rivesaltes, où les postiers sont en grève depuis 61 jours. Alors casser une grève, je rappelle, c'est illégal. Une sanction sera donc prise à l'encontre du délégué. L'inspection du travail a relevé le recours illégal aux intérimaires. Ce n'est pas si ce n'est tout rose pour les délégués syndicaux, bon, on l'a vu, et les syndiqués également, ce n'est pas non plus tout noir, en fait, puisque il y a, je dois dire qu'il y a quatre trompe-la-mort, c'est comme ça que je les appelle maintenant, et j'entends par cette expression quatre salariés de l'entreprise qui est une fonderie, la fonderie Casse-Métal, dans le Doubs, donc quatre salariés de l'entreprise qui ont osé défier la direction en constituant une liste CGT, tout simplement. Eh bien, qu'y a-t-il eu en retour ? Licenciement immédiat en plus, mais ils ont été réintégrés aussi vite grâce à une mobilisation et une décision prud'homale. Alors prenons maintenant bon gré mal gré cette étude qui est parue en novembre 2015. Je pense que c'est une revue qui s'appelle Technologia. J'ai pas été voir exactement ce que c'était. Cette revue, donc Technologia, nous indique que 36% des salariés déclarent préférer rester silencieux dans leur entreprise, bien entendu, mais peut-être même ailleurs aussi, par peur de représailles. Voilà, ils ont tout dit. C'est court, c'est précis. Et puis pour terminer, donc on va aller à Aubernais, c'est pour terminer cette deuxième page de lutte. Donc Aubernais, c'est en Alsace, et rien que le nom déjà, on sait de qui on va parler. C'est de Cronenbourg, la bibine Cronenbourg.
Parlons-en.
Du groupe du groupe Carlsberg, bibine aussi, Carlsberg. Donc 1086 salariés, ils les appellent en fait des collaborateurs, c'est gentil.
Oui, c'est souvent ça maintenant. Ouais. Nous sommes plus, voilà.
Ah, un peu
comme tout le monde,
a
même salaire, c'est normal. C'est bien
oui.
Ça, non, non.
Oui, collaborateurs. Donc voilà, ils sont 1086 salariés et quelques centaines qui étaient en grève le 8 février, en une grève illimitée. une pénurie de bibines s'annonce, point d'interrogation, bah, pas tout à fait, puisque les grévistes ont été remplacés par des salariés précaires qui n'ont certainement pas eu le choix de palabrer, enfin de négocier plutôt leur situation. Les directions patronales ont toujours des solutions bien dégueulasses en main, opposées salariés à salariés, travailleurs à travailleurs. Et là, c'est des précaires, mais il y a aussi des intérimaires, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est un conflit illimité chez Cronenbourg. Les raisons sont salariales, les assemblées générales se constituent régulièrement, des décisions sont prises évidemment. Les résultats pour parler aussi un petit peu du résultat du brasseur en question, donc Cronenbourg, eh bien ils sont tout à fait mirobolants, pour pas dire mirifiques. Les grévistes exigent 150 euros bruts mensuels contre le 1% qui avait été proposé par la direction. Voilà, il y a quoi de se mettre en colère, non ? Puis moyen, boire un petit coup par-dessus aussi, après. Voilà.
Ah, c'était bon ? Ah, c'est la dernière ?
Ah, bah ça y est, bah ouais.
J'en rajoute une, du coup.
Ah, mais je t'en prie, je
te pense, quoi. Mais
il faut.
Voilà. Bah, une fois n'est pas coutume, avec des petits soucis, donc à la l'ADAPI du Rhône, donc c'est une association qui regroupe une quarantaine d'établissements, je crois, qui s'occupent de personnes porteuses d'un handicap ou d'une déficience mentale. Et donc là, ça se passait dans un IME, donc un institut médico-éducatif, donc qui accueille du coup des jeunes, jusqu'à la majorité, voire un peu plus s'il n'y a pas de place ailleurs. Donc les salariés de cet IME, Pierre Delune, voilà, qui avaient interpellé leur direction d'établissement et la direction générale sur les moyens insuffisants déployés pour le nouvel IME Pierre Delune, parce que du coup, ils déménagent sur un nouvel établissement. Il y avait un courrier qui avait été fait au mois de novembre, qui a eu une réponse assez neutre directeur général de la DPI du Rhône, en disant que j'ai pas de sous, donc vous pouvez toujours vous gratter. Donc ils expliquent un petit peu, la nouvelle organisation prévoit donc une baisse conséquente de l'effectif salarié au regard de l'augmentation d'enfants accueillis sur le nouvel établissement. En gros, ils vont passer de 2 veilleurs de nuit pour 8 enfants accueillis sur Pierre Delune 1 contre 2 veilleurs pour 24 enfants pour Pierre Delune 2, et cela sur 3 sites. Il y aura 4 éducateurs pour 6 ou 7 enfants à Pierre Delune 1 contre 3 pour 8 prévus sur le nouvel établissement. Donc il y a une baisse d'encadrement et la journée du personnel éducatif et le soir pour les veilleurs de nuit. Parce que du coup, comme c'est des gamins qui sont en internat, du coup le soir ce sont des veilleurs de nuit qui s'occupent d'eux et elles. Du fait de la spécificité de l'établissement en lien avec l'hôpital de Saint-Cyr au Mont-d'Or, l'ARS avait reconnu la nécessité, l'ARS c'est l'agence régionale de santé qui donne des thunes à tous les établissements, avait reconnu la nécessité de fonctionner avec des effectifs plus importants et malgré un taux de remplissage très inférieur à ce qu'il devait être. Ces enfants qu'aucune autre structure dite classique n'était pas ou plus en capacité d'accueillir, souffrent de graves troubles du comportement et de la personnalité et manifestent aussi des épisodes d'agressivité souvent imprévisibles. En novembre dernier, c'est une de nos collègues qui en a fait les frais et qui, grâce à l'intervention de ses collègues, a échappé au pire. Cela s'est déroulé avec un taux d'encadrement encore intact. Que se serait-il passé si les faits s'étaient déroulés avec le taux d'encadrement prévu à ce jour ? À noter que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc les salariés de ce IME, Pierre Delune, revendiquent le droit à travailler dans des conditions normales, inhérentes au type d'enfants présents dans l'établissement. L'augmentation de l'exposition aux risques psychosociaux est à craindre et la sécurité et l'intégrité physique des salariés, mais aussi des enfants, sont fortement à interroger. Et que dire de l'accompagnement éducatif des jeunes, si ce n'est que celui n'en sera relégué qu'au strict minimum, voire passer au petit psychotrope pour calmer les enfants. Depuis leur arrivée dans leurs nouveaux locaux, les membres du personnel sont livrés à eux-mêmes dans des conditions regrettables, avec certes des locaux neufs mais pas suffisamment aménagés pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ils pallient constamment au manque d'organisation et sont amenés au quotidien à travailler dans l'urgence. Leurs horaires sont aussi à re-questionner, avec une inégalité et une grande disparité pour chaque membre du personnel éducatif. Voilà, horaires qui sont passés au comité d'entreprise mais qui n'ont pas, le seul à avoir voté pour, c'est le syndicat de cadres. La CFDT s'étant très courageusement abstenue, Sud et la CGT ayant voté forcément contre. Sur la question des moyens, la réponse de la direction générale est évidemment très décevante et en signe de protestation. Il y avait donc une grève hier matin. Il faut aussi dire que si un tel établissement avec une telle spécificité voit ses moyens baisser, à quoi les autres établissements doivent-ils s'attendre ? La nouvelle organisation d'un autre établissement qui s'appelle Senti a conduit à une déqualification importante, avec des départs en retraite des éducateurs et éducatrices spécialisés non remplacés ou transformés en postes AMP. AMP, donc du coup, au niveau des différentes formations, des personnes qui peuvent travailler dans ces établissements-là, donc il y a éducatrice, éducateur spécialisé, il y a moniteur et monitrice éducateur, et il y a AMP. Et donc du coup, on va dire que les éducateurs et éducatrices spécialisées sont remplacés en poste AMP. Afin de soutenir leur mouvement, les salariés de Perdune appellent donc l'ensemble de leurs collègues des autres établissements à soutenir leur action en signant une pétition, ce qui va être fait. Donc avec une demande très claire, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des exemples qui avaient été donnés, donc c'est des gamins assez difficiles. Les salariés qui bossent là-bas, font plutôt bien leur boulot, quand ils sont assez. Voilà, comme petit exemple, il donnait l'exemple d'une salariée qui était qui avait été heureusement secouru par d'autres salariés lors d'une crise d'un ou d'une gamine. Il faut savoir quand il y a un gamin comme ça, une gamine qui pète un plomb, donc faut être un ou deux pour réussir à le calmer. Ce qui veut dire que, en plus, ça excite un petit peu forcément les autres enfants. Ça veut dire que là, si on passe un encadrement à 3 pour 8 enfants, ça veut dire qu'il y en a deux qui vont s'occuper de l'enfant en crise, et puis l'autre va être tout seul avec les 7 autres, donc ça va être formidable. Ça promet de belles choses. Il y avait quand même le mouvement était très suivi, par rapport aux salariés de l'IME Pierre Dune. De toute façon, le courrier qui avait été fait au nombre avait été signé par tout le monde. Il y a sûrement d'autres mobilisations à venir dans cet établissement et dans d'autres sûrement, puisque le directeur n'a pas l'air de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Il nous reste quelques minutes, donc on va pas vous faire des longs dossiers parce qu'on fera ça la semaine prochaine tranquillement. On va juste faire un petit tour. On rappelle à tous les lycéens et lycéennes, du coup, de prendre les armes. Mais du coup, de se révolter un petit peu contre le projet du nouveau président de la région, ce fameux Laurent Wauquiez, avec sa belle doudoune rouge, qui était à Moiran il n'y a pas très longtemps, pour présenter son fameux projet d'installation de portiques de sécurité dans tous les lycées de la région.
Ah oui, le fameux projet où il a été mauvais en calcul, c'est ça?
C'est ça. En plus, très mauvais, parce que du coup, une journaliste de je ne sais plus quel journal refait le calcul pour lui, parce qu'en fait il disait 100 000 euros par portique dans 330 lycées, et lui il annonçait 20 millions d'euros, donc ce serait plus du coup 33 millions d'euros, sans compter les frais de fonctionnement, sans compter que même si ça fait bip 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 quand on passe, normalement on n'a pas le droit de fouiller les sacs des gamins comme ça, des ados, et donc du coup il va falloir qu'il y ait un policier, soit qu'il soit appelé à chaque fois que ça fait bip 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 bip, soit qu'un policier soit présent sur les lieux, alors un peu comme aux États-Unis, il faut montrer patte blanche, voire plus. Quand on va au Bahut, elle a aussi compté que sur les 960 je crois élèves de ce lycée de Moiran en Isère, il faut 3 secondes par passage devant le portique, ce qu'il faudrait 50 minutes chaque matin, chaque après-midi pour faire rentrer tout le monde, ce qui est assez formidable quand même. Donc, il va falloir repousser les heures des cours pour pouvoir passer par ces fameux portiques, tout en sachant qu'a priori ce lycée un peu bucolique, il est un peu ouvert de tous les côtés, c'est la campagne, les gens sont tranquillous, et donc du coup en fait les portiques serviraient à rien, comme dans l'ensemble des lycées, donc on appelle un peu tout le monde, se bouger là-dessus, ce serait bien. Et puis voilà, puis on va changer de région, on va aller du côté de la région Île-de-France avec la fameuse Valérie Pécresse, donc qui est aussi présidente de région et qui a rien trouvé mieux que de nommer une anti-mariage pour tous et toutes à la famille. Et ça, c'est quand même pas mal. Cette Caroline Carmentran, donc cofondatrice du mouvement anti-mariage pour tous, les mères veilleuses. Ah, c'est gentil quand même, les mères, les mamans veilleuses, c'est dingue. A été nommée présidente donc de la commission famille et action sociale au conseil régional d'Île-de-France. Une décision dans la ligne de la campagne de Valérie Pécresse et de ses appels au pied à la manif pour tous. On savait que son premier truc c'était de vouloir réduire les aides pour les personnes sur les transports en commun, payent plein pot, notamment les personnes en situation irrégulière. Comme ils sont riches, autant encore un peu taper dessus. Donc c'est formidable. J'ai vu qu'à Nice aussi ça avait fait un tollé. Donc je crois qu'Estrosi avait reculé, mais c'était un peu sur une même nomination d'une personne pareille, tête de ponte des FAF au niveau des réactionnaires, et qui du coup n'a pas été nommé parce que du coup ce fameux Estrosi, vous rappelez la situation là-bas, c'est qu'il avait été élu quand même par des voix de gauche a priori, parce que du coup le candidat s'était retiré il me semble du coup pour faire barrage au Front National et à la maréchale Le Pen, et donc du coup qu'est-ce qu'il ferait mieux, hop, pour remercier tout ça, il a voulu nommer pareil à la famille, enfin du coup à peu près sur le même poste, une anti-mariage aussi pour tous et tout, donc voilà.
Mais du coup c'est fait, elle est nommée
par contre sur Île-de-France c'est fait, ouais,
d'accord.
Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, on sait aussi que, je lis là sur la fin de l'article, que Nicolas Sarkozy a fait la semaine dernière, a nommé Catherine Giner anti-IVG notoire, déléguée à la famille des Républicains. Voilà, une fonction qu'elle occupe déjà comme adjointe à Marseille. Enfin, c'est formidable. Comment gratter des voix à droite, de la droite, de la droite, de la droite. Donc voilà, bah écoute, on va s'arrêter là. Il y aura plus de dossiers la semaine prochaine. On reviendra, on fera un petit tour en Réunion avec une route à 1,6 milliard. On ira faire un tour en Pologne et en Hongrie. Et on ira faire comme un petit tour, la petite page qu'on a pas eu ce coup-ci sur en soutien aux migrants. Migrants, toi, c'est un truc de fou. On pense déjà ce qu'on va vous dire la semaine prochaine. Bon, voilà, on vous rappelle juste les permanences samedi 15h-19h, là ce samedi pour la plume noire, le mercredi 17-19h, les cours de langue le lundi à 18h. Et puis voilà. Hein. Puis pour les annonces qu'on a annoncées en début d'émission, soit vous réécoutez tout ça sur le blog des émissions, soit vous allez sur Rebellion.
Et puis pendant les permanences, la collecte de dons qui continue toujours.
Hein. Exactement, ouais, pour les migrants, les migrantes également. Voilà, voilà.
Et ben on vous dit à mercredi. Et puis bonne semaine, bien sûr. Jusqu'à ce mercredi prochain. Ciao. Salut, salut.